Booster Club, une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF. Christophe Maury.
Alors, nous allons au théâtre, Jean-Luc Jenner, Nadir Amaoui, bonjour.
Bonjour Christophe.
Vous allez nous parler, chacun de vous, de deux pièces, et puis ensuite, nous allons nous rassembler sur une cinquième pièce. Alors, Jean-Luc, vous allez nous parler de Haute Tension, de Je m'appelle Achervert. Et puis vous, Nadir, vous allez nous parler de l'harmonie des genres et de l'argent de la vieille. Alors, commençons par Haute Tension, si vous le voulez bien.
Ah oui, alors tu veux commencer par...
Oui, parce qu'après on va se retrouver au bar de l'Oriental.
Oui, c'est ça. Donc tu veux commencer par le plus gentil, c'est ça?
Oui.
Alors, alors les cafés de la gare, café de la gare.
Donc, merveilleux endroit, il faut y aller.
Ah, il faut toujours aller au café de la gare.
Oui.
D'abord parce que c'est dirigé par des gens très bien. Là, en plus, on peut saluer Sota qui a été malade, là, qui va beaucoup mieux,
bon.
Qui est la directrice.
Qui sert toujours la soupe.
Historique, qui sert seulement les dimanches, hein,
oui,
parce qu'elle fait les dimanches de Sota où elle reprend des... Et puis c'est un lieu qui est formidable parce qu'il y a un vrai rapport scène-salle. Parce qu'on ne dit pas assez que souvent, les théâtres, les spectateurs sont loin, ils ne sont pas... Tandis que là, on est vraiment tout près du plateau, donc on est tout près des comédiens. Et là, l'art du théâtre, l'esprit du théâtre, l'essence du théâtre est vraiment bien réalisé avec la forme, avec le lieu. Quoi.
Et c'est un endroit où on a envie de compter. Hein ?
Tout à fait.
De raconter quelque chose, voilà. De s'asseoir au milieu de tout le monde, c'est merveilleux.
Non, c'est vraiment un très très beau lieu, oui. Et qui est vraiment tenu depuis avec Manès et puis avec Sota, voilà. Alors maintenant, ils sont un peu aussi dépendants de l'économie, donc il y a moins de spectacles qui viennent d'eux-mêmes et plus de choses qui viennent de l'extérieur, ce qui est le cas de Haute Tension. Ça ne vient pas d'eux, c'est pas un projet qui est organisé par eux, mais c'est un spectacle qu'ils reçoivent. Un texte de Jandel qu'on connaît, hein, un bon auteur. C'est mis en scène par Anne Bouvier, que l'on connaît aussi, qui est un bon metteur en scène.
Très bon metteur en scène.
Voilà, et puis c'est joué avec des comédiens qu'on connaît, notamment le soir où j'y étais, en tout cas avec Carole Massada, qui est une comédienne absolument formidable, excellente. Il y avait François Raison, qui est un bon comédien, Emmanuel Donzella, qui était très très bien. Enfin, vraiment, une bonne... Voilà. Alors, ensuite, bon... C'est toujours la même chose. C'est une pièce de café-théâtre, bien foutue, amusante, agréable. Ça raconte une affaire de famille. Vous avez dans cette pauvre famille, hein, une femme éplorée parce qu'elle vient d'apprendre que sa sœur a été trompée par son mari. Alors ça en fait toute une histoire. Elle est très très malheureuse. On dit on m'a trahi. Et puis elle apprend que son mari le savait depuis 2 ans et ne lui a pas dit. Donc c'est horrible, c'est abominable, etc. Et comme c'est joué par Karen Bassada, bah, tout ça est très drôle, c'est très amusant, quoi. Voilà. Ensuite, c'est toujours la même chose. À quoi ça sert? Pourquoi? Bon, alors, le public est content, la salle était pleine quasiment. Hein, donc vraiment, parce que les gens ont besoin de se détendre. Et là, on se détend, on passe une soirée agréable. Voilà.
Bah, c'est bien.
Il y a un projet de théâtre, ce projet est abouti. Que demander de plus? Voilà.
Et le public est plus, là, sinon, donc mission accomplie.
Voilà. Ensuite, c'est moi, à chaque fois que je vois ce genre de pièce, je me dis, mais c'est la vie de chacun. Je crois que j'ai l'impression que tous ces gens de théâtre oublient que la vie est courte et passer, ils ont dû répéter pendant 2 mois, 3 mois, je sais pas, 2 mois peut-être, et passer tout ce temps à monter ça, à jouer ça. La vie est... Voilà, moi, c'est toujours ça qui m'interroge. Mais c'est une question de Jean-Luc Jenner, ridicule.
Un projet, c'est 5 ans, donc il vous reste combien de temps Il vous reste combien de projets jusqu'à...
Voilà, il reste... Mais oui, non, mais tu vois, c'est toujours ça. Donc on se dit quand même, ils oublient un peu que la vie est courte, quoi. Et voilà.
Bon, mais en tout cas, ils font du bien aux gens. Donc
bon,
c'est ça
ils donnent du plaisir.
Bon, ça, c'est ça qui est important.
Oui, mais c'est pas un plaisir qui vous... Comment vous dire ça, c'est... On sort pas de là, parce qu'il y a des comédies, je sais pas, chez... avec Feydeau ou avec certains grands auteurs qui écrivent des comédies vraiment voilà on peut écrire d'une manière drôle et puis il y a quelque chose, une substance là on est dans le vent
bon mais on prend du plaisir c'est ce qui est...
c'est du oui mais c'est
Bon, alors
non, voilà, c'est
Nadir Amaoui.
C'est une bonne comédie.
Ouais. Vous avez vu l'harmonie des genres de Noémie Delattre au Théâtre des Mathurins.
Tout à fait, oui, Jean-Luc. Donc j'avais déjà assisté au premier spectacle de Noémie Delattre qui s'appelait Féministe pour hommes, oui. Qui a se revendiqué être féministe mais aimer les hommes comme c'est pas permis, avec un humour très, très sec, très rude, mais et très, très touchante à la fois. Là, cette fois-ci, elle touche à des sujets qu'elle survolait un petit peu dans le premier, et là, elle y touche, donc, notamment, ça n'a pas beaucoup plu, notamment le patriarcat, l'histoire des relations hommes-femmes, de l'amour, avec un A majuscule, de l'histoire du couple, mais elle le fait avec beaucoup d'humour, toujours beaucoup de sans-filtre, et avec
actuel.
Tout à fait actuel, et avec en musique également, parce qu'elle chante, elle slame, et accompagnée de trois excellentes musiciennes.
Mais donc,
elle est toute seule. Il y a trois musiciennes chanteuses avec elle sur scène, mais sinon, elle est toute seule, ouais.
Ah oui, et puis
elle participe autant, presque autant que...
Oui, mais c'est une féministe patentée, notre Noémie Delattre, non?
Ah ben, elle revendique être féministe,
c'est pas un peu
mais...
badette, non? Parce qu'en général, c'est du rentre-dedans, un peu...
Ben, pas tant que ça, parce que dans le premier, non, elle disait ouvertement qu'elle est féministe, mais qu'elle avait beaucoup d'amour pour les hommes. Et là, non, elle ne fait pas que matraquer pendant une heure et demie sur le patriarcat, parce qu'elle elle tend aussi des petits pics envers les femmes en elles-mêmes. Donc tout le monde en prend un peu pour son grade, et en fait, ça se termine par... voilà, parce qu'en gros, d'où le titre L'harmonie des genres, c'est que quel que soit le genre que l'on ait, on peut très bien vivre en harmonie sans se
j'espère bien
et se soutenir.
Pour atténuer le
problème. Ça fait quand même quelques années qu'on le fait avec des femmes merveilleuses et extraordinaires.
Pour atténuer le féminisme de mode, vous avez vu Mondial Placard
Oui, oui.
Vu, moi encore.
Non, pas vu. Bon, non, mais, on en parlera plus tard.
Mais c'est bien d'en reparler parce que je crois qu'ils ont. La salle n'est pas remplie, alors que là, en revanche, c'est une comédie qui cherche à réfléchir d'une manière un peu plus intéressante que voilà.
Oui, c'est au théâtre Tristan Bernard,
c'est au théâtre
Rue du Rocher.
Tristan Bernard,
c'est allez-y,
c'est merveilleusement, voilà, tout à
on
fait.
On rit beaucoup, et puis alors sur le féminisme, il y a vraiment de quoi parler, mais c'est très très bien fait, alors, avec beaucoup d'humour.
Mais les féministes vont dire, oui, mais bien sûr, mais c'est écrit par un homme, alors donc ça va pas, quoi.
Et en plus un aristocrate.
Voilà, bien sûr.
Ah, c'est vrai qu'il y a une particule.
les hommes n'ont pas le droit de parler des femmes, les blancs n'ont pas le droit de parler des noirs, ceux qui ne sont pas handicapés n'ont pas le droit de parler des handicapés. Enfin, on connaît la musique. Hein.
Voilà,
et ceux qui ne sont pas musiciens n'ont pas le droit de parler de musique.
Là, bon, voilà. Donc là, Mondial Placard, nous en parlerons très longuement quand vous l'aurez vu, Nadir. En tout cas, on peut d'ores et déjà dire foncez. Foncez aussi au Théâtre des Béliers, Jean-Luc Génère.
Oui, oui.
Pour aller voir Je m'appelle Achard Vert.
Oui, alors là, c'est...
c'est du costaud.
Oui, là, c'est du costaud. C'est-à-dire, au moins, là, c'est une comédie, là encore. Oui. Hein, vraiment, on s'est fait pour faire rire. Là, on réfléchit. Là. Enfin, je veux dire que c'est pas n'importe quoi, quoi. Alors, c'est une réflexion sur le sens de l'art, sur ce que c'est que de s'engager pleinement dans une mission artistique. En l'occurrence, on est dans un milieu juif. C'est tiré d'un roman, d'un roman de Chaim Potok, qui est un grand écrivain juif. En tout cas, bon, on est à Brooklyn. On est dans un mode au milieu de juifs qui sont vraiment radicaux. Et là, il y a un jeune homme qui a un don qui est celui de dessiner. Et il dessine magnifiquement, il dessine très bien et depuis tout jeune. Un peu comme mon frère, d'ailleurs, mon frère est peintre, quand il était tout jeune, à 7 ans, à 6 ans, il commençait. Bon, ben c'est exactement ça. Et là, ça trouble les parents qui sont scandalisés de voir leur fils s'occuper de ça. Faut savoir que les juifs orthodoxes, c'est quelquefois difficile. L'autre jour, par exemple, j'étais dans la rue, et puis un juif orthodoxe qui est venu me voir pour que je vienne allumer la lumière, parce qu'il n'avait pas le droit de le faire.
Ben oui, c'était
donc,
sympa.
Donc, et là, c'est ce genre d'individu.
Et donc le petit Acharlev arrive à grandir.
Alors, il arrive à grandir et il arrive à défendre
sa peinture.
À défendre sa peinture, aidé par un autre peintre. Voilà. Donc c'est un sujet intéressant. Alors, le problème, on devait avoir ici notre ami Alexis Michalik, qui va venir un autre jour. On connaît Mélodie Mouret qui joue d'ailleurs. Voilà. Bah, c'est comme ça, quoi. C'est cette forme d'écriture qui est. Alors là, c'est une adaptation de roman, mais c'est toujours pareil. C'est rythmé. C'est voilà.
C'est le théâtre moderne. C'est contemporain.
C'est ce théâtre moderne qui est voué à finir dans les voilà, qui n'a aucun sens parce que c'est du théâtre vraiment éphémère, quoi. Il y a pas. Ensuite, on n'aura plus de texte.
Bon, mais on marche.
Oui, on marche, on passe une soirée intelligente. Alors, ensuite, c'est la même chose. L'intelligence de ça, elle est un peu limitée. C'est-à-dire que, bon, d'accord, alors, le problème de l'art, qu'est-ce qui vaut mieux, sauver son chat quand la maison brûle plutôt que le Van Gogh qui est dans le... Bon, alors, à quoi sert l'art? Quel est le sens de l'art? Quel est le sens de l'engagement artistique? Bon, on va très vite vers quelques poncifs, donc ça, non, évidemment, il y en a quelques-uns là-dedans, hein, dans un texte comme celui-ci. La salle était pleine, quasiment, les gens sont heureux, le Bélier, ils font vraiment une politique vraiment intéressante.
C'est du bon travail.
La distribution est très bien.
Voilà, ouais. Il y avait un vigile qui était un peu casse-pied parce que qui faisait un peu peur parce que je voulais me mettre au fond et il m'empêchait de me mettre au fond parce que il avait peur que tous les gens me suivent pour se mettre au fond, alors que moi, quand je suis critique, je me mets toujours au fond pour pouvoir ne pas être vu par les comédiens et pour pouvoir avoir une vie globale et de ce qui se passe sur le plateau et de ce qui se passe dans la salle. Donc, alors, il était furieux, on s'est un peu engueulé, mais sinon tout s'est très bien passé.
C'était... Bon, donc à voir à Cherlève, je m'appelle à Cherlève, au Théâtre des Béliers, dans le 18e arrondissement. Parlez-nous de L'Argent de la Vieille avec Amanda Lear, elle est décevante.
Alors, donc L'Argent de la Vieille, c'est adapté d'un film italien,
oui,
avec Bette Davis et Alberto Sordi, qui date des années 60-70. C'est adapté au théâtre par deux noms qu'on connaît très bien, Gianfranco et Guillaume Melani,
oui,
mis en scène par Raymond Acquaviva, donc trois noms qui sont en général des valeurs sûres.
Raymond Acquaviva, qui était l'ancien directeur des Béliers.
Voilà. Ah oui, d'ailleurs, oui, qui donne toujours ses cours, d'ailleurs, là-bas.
Tu as le sens, vraiment, hein,
de la mise en scène.
Hein, tu as le sens, tu vois, tout dit. Non, voilà. Mais aussi, surtout toi, du lien.
Bah oui, bah, il y a du métier derrière.
Voilà.
Amanda Lear, qu'on avait vu dans les pièces de Jean et Guillaume, en général,
Jean-Franco et Guillaume Mélanie.
Voilà, de Jean-Franco et Guillaume Mélanie. On y va par curiosité. Première chose qui m'a étonné, mais pas dans le bon sens,
c'est
au Théâtre Libre, qui s'appelait avant Le Comédien. La première chose qui, moi, m'a un peu fait tiquer, c'est la salle, le rapport scène-salle. La salle est tellement grande que des fois, on a du mal à entendre ce que les comédiens disent. Je trouve que c'était peut-être pas la bonne salle pour cette pièce-là. Je pense qu'elle aurait été peut-être mieux dans une salle. Mais
surtout qu'elle est mobile, la salle. Hein.
Ben là, elle bouge même pas. Hein. Là, c'est vraiment.
Non, oui, bien sûr. Il faut savoir que c'est une salle mobile au Théâtre Libre.
Ah ben là, non, elle reste fixe vraiment pendant tout le spectacle. Mais je pense que ça aurait peut-être été mieux dans une salle comme la Michaudière, par exemple, où là, on entend mieux, quel que soit là où
on
est.
Parlez-nous de la pièce.
Pardon, oui, pardon. Ben là, en fait, ça a été une petite déception parce que je connaissais le travail de Gianfranco et Guillaume Mélanie. Je me suis dit, avec un thème comme celui-là, même s'il fallait rester proche du film, on allait beaucoup rire. Donc on rit, oui. Amanda Lear est détestable à souhait parce que elle joue une vieille femme riche qui fait le tour du monde et qui vient une fois par an à Paris pour jouer à la belote avec un couple de pauvres et lui piquer son fric. Et donc là, c'est le soir où ils vont jouer avec elle. Sauf qu'entre-temps, elle a une nouvelle bonne, c'est la fille des deux pauvres, et elle a son valet qui picole comme c'est pas permis, qui est censé l'aider à gagner. Elle n'est pas assez détestable, je trouve, dans ce rôle-là. Elle pourrait l'être mille fois plus. Elle est méchante dans les termes qu'elle utilise, mais elle pourrait l'être encore plus. Donc je trouve qu'on pourrait un peu plus pousser la méchanceté d'Amanda Lear. Le couple joué par Atmen Khelif et Marie Parouti, qui sont deux excellents comédiens, fonctionne très bien. On dirait deux petits Thénardier, mais en fait, ce sont plus eux les dindons de la farce, pour le coup. Et les deux autres comédiens, Olivier Pagès, qui joue le rôle du valet, est plutôt bien. Lui, il est très sobre. Et celle qui m'a étonné dans le bon sens, c'est la petite jeune, c'est la seule que je connaissais pas, qui s'appelle Jeanne Perrin, qui joue la fille, donc la fille des deux pauvres, et la bonne de la vieille, que j'ai trouvée absolument excellente, qui devient un peu plus méchante, parce que en fait...
Le fait que la fille devienne au service de la vieille, ça crée des quiproquos assez marrants, j'imagine.
Mais même pas, parce que dès le début, elle le sait.
D'accord.
Et la petite, voilà, un exemple d'humour qu'on peut trouver un petit peu partout dans les comédies, la petite s'appelle Anastasia, pendant toute la durée du spectacle, elle appelle par mille et un prénoms qui n'ont rien à voir avec elle, c'est un comique de répétition qui en général fonctionne plutôt bien.
Oui, qui est un pécule quand même.
Voilà, c'est ça, mais j'ai été un petit peu déçu.
D'accord.
On rit, on sourit, on rit un petit peu, mais pour avoir vu les autres pièces précédentes de Jean-Franco et Guillaume Mélanie, je m'attendais un peu plus. Bon. Mais je pense qu'ils ont dû être bloqués sur l'adaptation, parce que les adaptations en Italie sont très serre la vis, on ne peut pas aller où on veut.
Alors, je n'ai pas vu le spectacle, mais je connais Franco, et qui est un type très très bien.
Ah oui, il est très, c'est un excellent auteur, bien sûr. Il
a plein d'humour et très bon comédien.
Ah oui, non, mais ça, il y a rien à dire.
Un petit bonhomme très marrant.
Oui, voilà, et qui a énormément de talent.
Franco Mélanie, c'est les Barry et Grédy d'aujourd'hui.
Voilà, et leurs pièces fonctionnent très bien. Il y a celle-ci, mais je pense que là, c'est une adaptation. Ils n'ont pas pu avoir les mains aussi libres que d'habitude, je pense.
Alors, nous allons au bar de l'Oriental. Ça se passe au théâtre Montparnasse.
Remarquez, cher auditeur, que tout d'un coup, il prend une voix funèbre.
Ouais, il prend un ton de sociétaire de comédie française.
La pièce est écrite par Jean-Marie Roire de l'Académie française. Et il y a notamment Gaël Biodano qui tient vraiment toute la pièce. Nous l'avons vu tous les trois. Je vous écoute.
Jean-Luc, non, toi d'abord. Jean-Luc.
Bah non, commençons par le plus gentil.
Bon, bah alors Christophe.
Non.
Alors c'est une pièce, on est au Tonkin, on est dans une grande villa, très grande, et puis il y a un homme qui est peintre, militaire aussi, mais il est partagé entre sa vie de militaire et sa vie de peintre, et il a une femme qui est très belle, mais aussi très mystérieuse, elle s'appelle Dorothée. Et alors on s'aperçoit que la police qui cerne tout le parc, parce qu'il y a un Khmer qui s'est évadé. La police est tenue par des... Comment ?
Non, c'est pas un Khmer, on n'est pas au Cambodge.
Oui, non, c'est pas un Khmer.
Un opposant.
Un opposant et...
Un Vietnamien.
Et la police,
un Viet.
Et la police est tenue par des anciens SS, tandis que l'armée est tenue par des anciens résistants.
Oui.
Et donc, on va avoir dans la Légion étrangère aussi pas mal d'anciens SS qui sont cachés. On est dans les années 50. Et on est dans cette espèce de torpeur, de longueur, de lenteur... De l'Indochine, enfin, dans ces années-là.
Bah, tu confonds quand même collaborateur et SS. Hein.
Oui.
Un type qui est vigiste, il n'est pas nécessairement SS.
Non, mais on apprend que dans la Légion étrangère, il y avait pas mal de SS.
C'est vrai. Les Allemands sont revenus en force dans les gens étrangères, ça c'est sûr, et surtout pour aller combattre en Indochine.
Alors, pièce historique.
Du côté français.
Alors, pièce historique, moi je regrette absolument, parce que c'est une faute
d'y être allé,
qu'il y ait un suicide sur scène. Ça c'est quelque chose. Non, et je ne regrette pas d'y être allé. Je vous écoute, Jean-Luc Chesnel.
Non, mais c'est un ratage complet.
Merci. Voilà.
Voilà.
Alors,
non, allez-y. Mais c'est un ratage complet. Bon, c'est dommage. Bon, je dis vraiment ça avec une petite tristesse, parce que j'allais même dire souffrance, tu vois. Parce que Jean-Marie Roire est un type très bien. C'est un bon romancier. Il s'engage sur des sujets qui le touchent et qui nous touchent. C'est un type courageux, etc. Donc, et puis en plus de ça, il parle d'une histoire et d'un thème qu'on a complètement oublié, parce que pour maintenant, quand on parle de la guerre du Vietnam, pour eux, il n'y a que les Américains. La guerre avec la France, on a complètement oublié. Et il y a une différence radicale entre la guerre que nous, Français, avons eue, et puis celle des Américains, qui étaient, eux, vraiment des occupants, alors que nous, on se battait aussi pour un certain idéal.
Donc ça, c'est le côté historique de la pièce qui vous a froissé.
Oui, enfin, non, c'est pas que ça m'a froissé, c'est que je trouve heureux
qu'on parle de ça.
D'accord.
Qu'on parle de ça. Donc j'attendais quelque chose j'attendais vraiment quelque chose. En plus, comme Roire n'est pas connu pour être un communiste fervent, on se disait, bon, bah, au moins on va avoir une vision un peu...
Du Figaro.
Un peu objective, etc., etc. Alors, sur le plan idéologique, il fait du Monterland sans être Monterland. C'est-à-dire qu'il est anti-colonial. Et ça en devient caricatural. Donc voilà, vraiment, les Français n'avaient rien à faire là-bas, ils sont tous cons, arrogants. Et puis la seule qui est bien, elle est collabo, donc avec les Viettes. Alors donc tout ça, c'est bon. Le fait que je dise que la fille est collabo, bah, c'est triste, parce que comme c'est le suspense et qu'on le comprend depuis le début, déjà ça tue tout suspense. Donc ce qui fait qu'on voilà. Et puis alors après, le problème, c'est que c'est que Roy, il écrit comme un romancier, il écrit pas comme, comme un auteur dramatique. Il a pas compris que l'écriture dramatique est une écriture inachevée qui prend son, son achèvement dans le corps du comédien. Donc il essaye de tout dire, ce qui fait qu'on est... on est, on est en face de dialogues qui sont désincarnés. Avec, voilà. Alors, il aurait fallu pour ça, pour sauver tout ça, un metteur en scène de génie qui voilà. Et là, on a l'impression de potiche, c'est-à-dire un metteur en scène qui, visiblement, n'a pas dirigé ses comédiens. Même une fille comme Gaëlle Biodano, qui est une très bonne comédienne. Il y a de très bons comédiens dans le, dans le spectacle. Elle a l'impression, on sait pas, moi je le trouve fort mauvaise, elle n'est pas dirigée. Elle est posée comme ça, et les comédiens ont l'air posé, on a l'impression que ça, c'est des espèces de potiches qui sont là. Enfin, et tout ça fait faux, tout le temps.
Mais c'est-à-dire que le plateau est très vide, alors il le traverse sans arrêt, même pour se chuchoter des choses, il le traverse.
Mais c'est ridicule. Et puis alors, en plus, les changements de décor sont d'une sottise...
Oui, ça j'ai pensé à vous quand je les ai vus.
Mais on voit les comédiens qui changent les décors.
Bah, ouais, c'est partout comme ça.
Ouais, non, mais c'est partout par ça, ils ont qu'à mettre des noirs pour changer le décor. Je sais pas, on trouve des trucs, on trouve des astuces. On est metteur en scène, ça fait partie d'un métier. Voilà.
On baisse le rideau.
Où on baisse le rideau, mais on ne fait pas ça. On fait pas ça. Comment voulez-vous ensuite croire à des personnages avec qui on a vu déplacer les meubles. Enfin, c'est pas une mise en scène. C'est pas bouger des meubles. C'est voilà. Enfin, tout ça est d'un ridicule. Et en plus, une pièce comme ça dans ce lieu-là, ça va pas. Il aurait fallu, je sais pas, au Café de la Gare ou dans des endroits au petit Montparnasse, dans des endroits où on a un rapport scène-salle un peu plus voilà.
Intime.
Ce qui fait que là, ça fait théâtre avec un accent circonflexe sur le A. Vraiment, ça fait faux.
Ah bah
faux,
c'est l'Académie française.
Faux, voilà, oui. Ouais, mais c'est dommage, quoi, parce qu'on en a marre de voir que des pièces qui sont des reprises. Voilà, là au moins, c'était un auteur qui écrit pour le théâtre, un romancier. Monterland aussi était romancier, hein, ça, mais le théâtre de Monterland était un théâtre de génie. C'est pas un problème. Claudel, son théâtre, voilà, c'était aussi un écrivain d'abord. On peut très bien... Racine, bon, c'est pas... on peut très bien être écrivain et puis connaître et sentir le théâtre et le vivre de l'intérieur, quoi.
Nadir, là, c'est pas le cas. Vous avez été au Bar de l'Oriental.
Oui, j'y suis allé également, mais quand je vous entends, j'ai l'impression qu'on n'a pas vu la même pièce, en fait.
Ça va se terminer sur du bon.
Contrairement à vous deux, si moi, c'est vrai que... Non, je sais que Nadir, toute ta vie est bon à entendre. Moi, contrairement à vous, c'est vrai que toute cette époque de la guerre d'Indochine, y compris à l'école, on en parle quasiment pas, voire plus du tout. Y compris à mon époque. Donc là, j'y allais vraiment avec une découverte totale, que ce soit l'auteur, que ce soit le metteur en scène,
les
comédiens.
Tu vas pas au théâtre pour des raisons d'histoire, t'as qu'à lire des livres d'histoire.
Oui, non, mais je veux dire, pour découvrir des choses qui ont lieu dans cette époque.
Il y a des très bons livres qui sont formidables.
Alors, donc vous avez vu la pièce.
Oui, mais c'est plus vivant.
Je vais te donner un conseil. Lis Jean Hougron.
Attends.
Jean Hougron est un auteur
restons
génial.
Restons sur le théâtre, Jean-Luc Génère, s'il vous plaît.
Sujet en Indochine, la guerre d'Indochine, par Jean Hougron, c'est formidable.
Alors, la distribution, je connaissais les trois quarts, donc j'y allais en disant, ça va être bien. Et alors moi, j'ai trouvé, contrairement à Jean-Luc, j'ai trouvé que le décor était beau, avec cette tenture qui est là en permanence, qui commence à s'illuminer au fur et à mesure de la journée. Le final, avec les bruits comme les sons, je l'ai trouvé très très beau également. Je vais pas dire spectaculaire parce que Jean-Luc va encore rigoler. Et voilà, moi à la fin, je l'ai trouvé très belle, très spectaculaire. Gaëlle Biodano a une réelle présence sur scène.
Mauvaise comme tout.
Non, oh, arrête d'être méchant, non.
c'est le tour de Nadir.
Voilà, elle a une vraie présence sur scène, comme il y a des comédiennes où, sans être en étant statique, peuvent avoir une réelle présence dans le jeu, comme dans la présence, ce qui était le cas de Gaëlle. Après, le thème, bon, moi, j'ai pas détesté, comme j'ai pas adoré. Moi, j'ai trouvé ça bon, j'ai trouvé ça beau. Les comédiens, moi, je les ai trouvés bons. Il y a des choses que j'ai appris, parce que voilà, toute l'époque de guerre d'Indochine, du Tonkin, Langso, j'y connaissais absolument rien. Donc, ça m'a permis de découvrir des petites choses, voilà, qu'il y avait des collabos parmi la police indochinoise, comme il y avait des résistants dans l'armée française qui étaient là-bas à la même époque. Moi, ça m'a permis de découvrir certaines choses. En effet, j'en apprendrai moins que dans des livres d'histoire, ça là-dessus je suis absolument d'accord, mais c'est un premier pas en avant pour avoir envie de découvrir une période de l'histoire dont on parle jamais assez. Et le théâtre permet, je trouve, à donner envie aux gens, avec des petites bribes, de vouloir en découvrir plus sur cette époque.
Alors,
mais
le théâtre c'est plus que ça, c'est mieux
sûr,
que
bien
ça.
Sûr, alors,
c'est mieux qu'un roman, alors, le théâtre.
Je vais essayer de faire la synthèse. Je dirais que c'est une pièce qui est léché, trop léché, et il y a du vernis, et il y a presque que du vernis. Mmh. C'est-à-dire qu'on a un très beau décor, mais une scénographie qui fait que y a trop d'espace entre les personnages, et donc ils passent leur temps à aller de jardin à cour et de cour à jardin. On a un théâtre à la fois qui se veut historique, mais alors on a l'histoire, par exemple, de ces deux sœurs, elle, Dorothée, qui est mariée, et l'autre qui est célibataire, qui attend l'homme de sa vie, et on s'aperçoit que cette autre est la maîtresse du mari. Bon, qu'est-ce que ça vient faire? Enfin, ça, je comprends pas trop.
Rien du tout.
Et qu'il y a un certain nombre... On a l'impression que tout est tricoté.
Tout est faux.
Mais c'est très artificiel.
Faux.
En fait, je pense qu'il y a eu des coupures dans le texte qui fait qu'il y a certaines choses qu'on n'arrive pas à rattacher les uns aux autres.
Bon, et ben j'entends le générique dans les oreilles.
C'est
donc,
d'une carte et...
On laisse le choix. Je tiens à dire qu'à partir du 28 mars, ce sera la première de Port-Royal de Monterland, mise en scène par Jean-Luc Génère, au théâtre de Jean-Luc Génère, le Nord-Ouest parisien, rue du Faubourg Montmartre.
Ce qu'on appelle du copinage, c'est parfait.
Voilà, merci à tous les deux, Jean-Luc Génère et Nadia Ramaoui. Merci à Cédric Cobat pour la réalisation, François Dieudonné, Camille Meyer et Philippe Malpeuch pour la réussite technique de l'émission. Lundi, nous irons au Petit Palais pour voir l'exposition Théodore Rousseau. Vous aimez les arbres? Eh bien, vous allez être servis. Alors, bon week-end, prenez soin de vous et des autres, et je vous embrasse.